RCF, il est 13h.
La grâce et la paix, la joie et l'espérance nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce temps de culte en présentiel dans notre temple, mais aussi à distance sur YouTube, sur la radio et aussi sur la télévision. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la question de la vérité dans un texte de l'Évangile de Jean. Qu'est-ce que la vérité ? Dit Ponce Pilate dans son dialogue avec Jésus. Cette question est d'une actualité brûlante aujourd'hui, dans un monde de plus en plus influencé par la post-vérité. Il est important de prendre le temps pour réfléchir sur cette question. Nous essaierons de comprendre le mot vérité dans le contexte de l'évangile de Jean d'abord, mais aussi de définir différents sens que nous pouvons donner au mot « vérité » aujourd'hui dans notre monde. Pour entrer dans notre cheminement liturgique, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, voici le temps où tu nous précèdes et nous invites au calme et à l'écoute. Voici le temps où ta parole ouvre à nouveau une espèce de vérité dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la joie, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au Seigneur, tu nous convives en ce jour à t'adorer. Seigneur Jésus, tu es le berger et nous sommes tes brebis. Tu es la porte et nous sommes ton troupeau. Tu es le cep et nous sommes les sarments. Loué sois-tu. Seigneur Jésus, tu es la lumière qui éclaire nos vies. Tu es la source d'eau vive qui étanche notre soif spirituelle. Tu es l'ami qui nous parle en vérité. Loué sois-tu. Amen. Et je vous invite à poursuivre cet élan de louange en chantant la première strophe du psaume 36 à la page 60 dans vos livres de cantiques, si vous souhaitez suivre la musique. Ô Seigneur, ta fidélité, et nous chantons la première strophe.
Thank you.
faire la volonté de Dieu pour notre vie, nous écoutons un dialogue entre Thomas et Jésus dans l'évangile de Jean. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Nous nous plaçons devant Dieu dans la vérité de notre vie pour un temps de prière. Nous prions. Oui, Seigneur notre Dieu, Jésus nous dit, « Je suis le chemin » et nous avons parfois tendance de nous écarter de lui pour prendre d'autres chemins. Jésus nous dit, « Je suis la vérité » et nous sommes parfois sceptiques au niveau de ses promesses. Nous écoutons parfois d'autres vérités sur notre vie. Jésus nous dit, « Je suis la vie » et nous cherchons parfois la vie loin de lui en la remplissant avec des choses matérielles et éphémères. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous de chercher chaque jour notre chemin, notre vérité et notre vie en Jésus-Christ. Amen. Et pour prolonger cette prière, nous restons assis pour chanter « Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne ». Et de pardon de la part de Dieu, nous écoutons encore une parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus dit alors aux personnes qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Oui, c'est en Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, que nous trouvons cette vérité théologique qui nous rend libres. En lui, Dieu nous aime tel que nous sommes. En lui, Dieu pardonne toutes nos fautes. En lui, Dieu nous envoie dans le monde pour conjuguer ensemble liberté et responsabilité dans chaque instant de notre vie. Levons-nous et chantons notre reconnaissance pour ce pardon gratuit de Dieu. Ô Père Tout-Puissant, ta grâce est infinie. Restons debout pour confesser notre foi. Quelqu'un est venu, petit parmi les humains, on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous croyons en lui. Quelqu'un a grandi, parmi les siens, on l'appelle le Messie, c'est-à-dire celui que Dieu a mis à part pour son service. nous croyons en lui. Quelqu'un a parlé de Dieu et a dit que Dieu était notre Père. On l'appelle le Fils de Dieu. Nous croyons en lui. Quelqu'un est mort et ressuscité pour nous. On l'appelle le Sauveur du monde. Nous croyons en lui. Quelqu'un a proclamé la bonne nouvelle. On l'appelle Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Nous croyons en lui. Amen. Et nous chantons encore cette foi. Dieu trois fois saint, nous te louons. Avant de lire le texte biblique tiré de l'évangile de Jean, nous prions Dieu pour qu'il nous éclaire par son esprit. Oui Seigneur, donne-nous ce matin d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'écriture que nous allons écouter ce matin devient bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 18 et nous lirons à partir du verset 33 jusqu'au verset 38.
Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je donc juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ?
Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 2204, à la page 260, « Oh, parle-moi, Seigneur », et nous chantons les strophes 1 et 2. qu'est-ce que la vérité ? Cette question de Pilate, qui met fin à son dialogue avec Jésus, dans le récit que nous venons d'entendre dans l'évangile de Jean, est d'une brûlante actualité. Nous l'avons vu lors de la campagne pour la présidence des États-Unis, dans les propos de Trump. Nous le voyons un peu partout dans le monde, dans ce que nous appelons couramment du fake news. Nous le voyons à travers l'usage de l'intelligence artificielle, dans la création d'images truquées ou dans des histoires inventées. Nous le voyons dans les revisionnistes de tous bords qui veulent réécrire des événements historiques pour des fins politiques, comme c'est le cas en Russie et d'ailleurs. Et ainsi de suite. Les exemples ne manquent pas dans notre monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi les spécialistes de cette question disent que nous vivons dans un monde de post-vérité, dans un monde de vérité alternative. C'est donc pour dire combien il est difficile de discerner ce qui est vrai dans notre monde d'aujourd'hui. Notre objectif modeste ce matin, dans ce temps de réflexion, c'est d'essayer de voir cette question de la vérité, d'abord de voir ce mot vérité dans le contexte de l'évangile de Jean. Et puis, je vous proposerai ensuite un essai de typologie sur la vérité qui pourrait nous aider à naviguer aujourd'hui dans nos discussions, dans nos débats sur ces questions de la vérité. Chose qui n'est pas toujours claire. Avant de regarder de près la notion de vérité dans cet échange entre Jésus et Pilate, lors de son interrogatoire, cela vaut le coup de voir le mot vérité dans le contexte de l'évangile de Jean. Commençons avec le mot grec, aletheia, pour dire vérité. Ce mot-là apparaît 24 fois dans l'évangile de Jean. C'est beaucoup. C'est donc pour dire combien ce mot est important pour cet évangéliste. Au niveau de l'étymologie, il veut dire littéralement « ne rien dissimuler, ne rien oublier ». Dans son sens grec, il y a donc la notion qui est quelque chose qui est conforme à la vérité. Si nous regardons le mot en hébreu, auquel le mot grec renvoie, il y a aussi la notion de ce qui est stable, fiable, solide. Le mot hébreu « emet » nous donne le mot « amen ». Ce mot que nous utilisons à la fin de nos prières. Si nous faisons un parcours rapide de l'utilisation du mot vérité dans l'évangile de Jean, nous pourrions aussi saisir davantage son sens dans cet évangile. Le mot vérité apparaît à deux reprises dans le prologue de cet évangile. Donc c'est pour dire que c'est un mot-clé. Il nous est dit que la parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Et que cette parole est venue habiter dans notre monde. Puis il nous est dit que cette parole qui est Jésus-Christ, cette parole-là est pleine de grâce et de vérité. Un peu plus loin dans l'évangile, Jésus va lui-même dire, comme nous l'avons entendu dans la liturgie, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité est donc, pour cet évangile, la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui dévoile au monde un Dieu Père en étant la parole incarnée et vivante de Dieu dans le monde des humains. C'est l'affirmation principale de cet évangile au niveau de cette question de la vérité. Dans cet évangile, il y a également l'utilisation de l'opposition classique entre vérité et mensonge que nous utilisons aujourd'hui dans notre monde. Ça apparaît dans les dialogues avec Jésus et ses adversaires. Il y a aussi l'expression « faire la vérité » qui veut dire dans ce contexte « faire la volonté de Dieu » manifestée dans la parole que Jésus est venu apporter au monde. Nous apprenons aussi de la bouche de Jésus que les vrais adorateurs de Dieu vont l'adorer en esprit et en vérité. Et lié avec cette expression-là, Jésus dit à ses disciples dans son discours d'adieu que le Père va leur envoyer en son nom l'Esprit de vérité. Pour continuer à enseigner aux disciples tout ce dont ils ont besoin
de la part de Dieu. Et enfin, nous voyons à plusieurs reprises l'expression qui apparaît dans le récit que nous avons lu là, tout à l'heure. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Si nous remplaçons dans cette expression-là le mot « vérité » avec le mot « Dieu », nous voyons très clairement dans cet évangile, il est avant tout question de vérité théologique, vérité sur Dieu, dans le cadre d'une démarche de foi. Donc voilà un peu la question de la vérité dans l'évangile de Jean. Cela ressort aussi très clairement dans ce dialogue que nous avons lu, ce dialogue de sourds entre Pilate et Jésus, qui avance pas à pas par des petits malentendus. Pilate demande à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Autrement dit, « Quelle est la vérité sur ta personne ?» Jésus lui répond, « Est-ce que tu dis cela de toi-même ?» Autrement dit, est-ce que c'est ta vérité personnelle? Est-ce que c'est ça, ta vérité existentielle? Est-ce que c'est ce que tu crois? Ou est-ce que c'est des autres qui te l'ont dit? C'est-à-dire, est-ce que c'est la vérité des dirigeants religieux qui m'ont amené ici? Pilate réagit. Moi, je suis donc juif. Autrement dit, cela, c'est pas ma vérité. Bah, qu'as-tu fait pour que les dirigeants de ton peuple t'aient amené là, devant moi? Jésus rebondit en disant « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Pilate attrape une petite partie de ce que Jésus dit là. « Tu es donc roi ?» La vérité qui l'intéresse à lui, c'est de savoir si Jésus est un roi politique, un roi terrestre, un rival dans le monde à Pilate. Jésus enfonce le clou en lui répondant « Tu le dis, je suis roi. » Mais pas selon cette vérité-là, la vérité du monde. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour rendre témoignage à Dieu. Et quiconque est de Dieu, quiconque est de la vérité, autrement dit, écoute ce que je vais dire. Et le dialogue de source s'arrête là avec cette question de Pilate, qu'est-ce que la vérité ? J'aurais beaucoup aimé être dans cette pièce, lors de ce face-à-face, juste au moment où Pilate pose cette question, pour voir son visage, pour entendre le ton de sa voix, pour constater ses gestes non-verbaux, afin de discerner le sens de sa question, parce que c'est pas clair. Est-ce que c'est une question rhétorique, sarcastique, sceptique? Ou est-ce une question qui veut vraiment connaître la vérité sur la personne de Jésus? Est-ce que Pilate est sincère et en quête, ou est-ce qu'il est exaspéré et s'en fiche complètement? La suite du récit nous donne peut-être des pistes, mais cela serait pour un autre moment, donc pas aujourd'hui. Ce qui nous reste à faire dans ce temps de réflexion est d'essayer de voir ce que tout cela, qui reste très loin de nous, à voir avec notre vie d'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde de prospérité. Je vous propose donc une petite typologie à la Robert. Donc c'est Robert qui invente ça, donc vous pouvez le prendre comme ça. C'est pas parole d'évangile là. Donc une typologie sur la notion de vérité dans notre monde d'aujourd'hui, pour nous aider à avancer un peu, à y naviguer, et surtout à entrer dans discussion avec des gens. Commençons par cette notion de vérité dans l'évangile de Jean. Dans le domaine d'une démarche de foi, je l'ai déjà dit, en rapport avec les textes bibliques, nous pouvons parler de vérité théologique. Les textes bibliques sur lesquels nous basons notre foi ne sont pas nécessairement des textes qui rapportent une vérité historique ou factuelle. Ils sont des témoignages orientés, des témoignages construits, des témoignages de foi, qui essaie de dire des vérités sur Dieu, dans le langage humain. Cette vérité, donc là, est évidemment relative. Elle change selon la religion en question. Nous, en tant que chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est la vérité pour nous. C'est lui qui nous révèle la vérité sur Dieu, dans sa parole, dans ses actes de compassion, dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection. Mais cette vérité théologique-là n'est pas celle d'un juif, n'est pas celle d'un musulman, n'est pas celle d'un bouddhiste, et ainsi de suite. Dans les conversations au niveau de la foi, donc, chacun a sa vérité théologique. et elle est relative et plurielle. Elle ne peut pas être imposée à l'autre. Elle peut simplement être partagée dans un dialogue réciproque et respectueux. Donc, vérité théologique. Deuxième notion de vérité qui est importante à reconnaître, c'est ce que j'appelle la vérité factuelle. Dans ce niveau de vérité, l'opposition entre vérité et mensonge entre souvent en ligne de compte dans notre monde. Une chose est ou une chose n'est pas. Et dire qu'elle l'est quand elle n'est pas dans la réalité viole ce principe de vérité factuelle. Si Robert dit que ce matin que sa robe est noire, et si quelqu'un parmi nous dit non, Robert, ta robe n'est pas noire, elle est blanche. Et puis, si cette personne par la suite dit partout sur les réseaux sociaux que Robert porte une robe blanche, nous sommes là dans la transgression d'une vérité factuelle. C'est ce que Trump et tous les populistes font dans le domaine politique. C'est ce qui se fait dans les tentatives de fake news aussi. Cela demande de nous, donc, de notre part, de la vigilance pour pouvoir discerner le vrai du faux dans le domaine des faits et aussi du sang-froid dans les discussions tendues avec les personnes qui refusent la vérité factuelle pour les ramener toujours vers le terrain des faits constatés, les faits reconnus. Donc, vérité factuelle, deuxième type. Ceci dit, il n'est toujours pas évident de dire que la vérité factuelle, quand il est question de quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui relève maintenant de l'histoire, cela nous amène peut-être à parler d'un troisième type de vérité, qui est la vérité historique. Il y a plein de livres dans nos bibliothèques remplis de l'histoire de notre monde. Est-ce qu'ils racontent tous la vérité sur les événements qui la composent? Est-ce que la vérité peut être racontée autrement par quelqu'un, différemment? Est-ce que la vérité est en fait plurielle? Vérité historique, bien sûr. Un exemple très simple pour l'illustrer, c'est un fait divers dans le monde vu par différentes personnes. Vous avez déjà vécu dans votre vie ça. Selon le lieu où la personne se situait, selon son angle de vue, selon son état d'esprit, selon sa capacité de mémoire, une poignée de personnes racontera différemment ce même fait divers. C'est pour dire que la vérité historique dépend toujours du point de vue de celui ou celle qui la raconte. Même si l'historien est hyper rigoureux au niveau de sa méthode scientifique, il choisit quand même ses sources et laisse d'autres de côté. Personne n'est totalement neutre dans sa façon de raconter un événement historique. Et c'est pourquoi il est important d'entendre non seulement la voix des vainqueurs, mais aussi la voix de celles qui ont perdu, quand nous voulons raconter une histoire dans notre monde. La vérité historique porte donc sa subjectivité, et dans nos dialogues sur les faits du passé, il est important d'avoir tous les points de vue représentés pour discerner au mieux ce qui s'est réellement passé. Quatrième et dernier type dans ma petite typologie ce matin, c'est la vérité existentielle. La vérité de ma propre vie, la vérité de ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que je crois, ce que je ressens. Tout cela, cette vérité-là, m'appartient personnellement. Personne ne peut pas dire ma vérité. Cette vérité, quand je le partage avec les autres, je le partage en jeu. C'est en forme de témoignage. Cette vérité existentielle est de fait donc subjective et relative. Elle ne peut pas être imposée à quelqu'un ou, à l'inverse, niée par quelqu'un. C'est ma vérité à moi. Dans le domaine de ma foi, c'est cette vérité qui convient. Vous pouvez voir ça. Je partage mon témoignage avec les autres. C'est ma façon de voir la vérité théologique de ma foi. Donc, vous voyez donc le lien entre vérité existentielle et vérité théologique dans cette façon-là. Dans le domaine d'un fait réel, ma vérité existentielle pourrait coïncider avec une vérité factuelle si j'arrive à rester très objectif et prendre la distance et rester sur les faits Donc vous voyez le lien entre vérité factuelle et vérité existentielle aussi. Et vous pouvez voir aussi facilement le glissement entre vérité existentielle et vérité historique quand il s'agit d'un événement dans le passé. Et c'est un grand problème maintenant. Donc on glisse sur ces deux-là et on ne reste pas forcément dans les faits historiques. Voilà donc un essai tout simple de typologie à la Robert pour nous aider dans nos relations humaines au cœur d'un monde de plus en plus divisé par la question de la vérité. Avec ces quatre types, vérité factuelle, vérité historique, vérité existentielle, vérité théologique, nous avons de quoi discerner quelle vérité il est question dans nos discussions et nos débats au quotidien et les glissements qu'il peut y avoir pour éviter justement le dialogue des sourds et pour surtout construire un monde plus fraternel, plus juste, plus tolérant et surtout plus paisible. Amen. Cette vérité avec le 41-16, la page 583, nous te célébrons, Dieu de vérité, et nous chantons les trois strophes, 1 à 3. Prendre maintenant le temps pour élargir notre prière aux dimensions de notre monde et en lien avec ce que nous venons d'entendre, unissons-nous donc dans la prière d'intercession pour notre monde. Oui, Seigneur notre Dieu, ce matin nous te prions pour tous les persécutés de la terre, pour nos semblables qui défendent la vérité, qui se retrouvent devant le Pilate du moment. Donne-leur sagesse et discernement pour dire leur vérité. Nous te prions pour tous les Pilates drapés de pouvoir, cherchant peut-être la vérité au milieu de tant d'opinions et de paroles. Suscite des Pilates qui écoutent l'opposition et qui cherchent le bien commun. Apprends-nous tous à ne pas nous laver les mains dans les moments de vérité.
mais à voir nos semblables dans la difficulté à agir pour le bien de tous. Te prions encore pour nos semblables partout sur la terre, pour qu'ils soient libres d'affirmer et de vivre selon leurs convictions, quelles que soient ces convictions, en vérité. Et que nous arrivons tous à nous écouter mutuellement les uns les autres, avec humilité et avec respect. Te prions aussi pour notre Église, pour qu'elle accomplisse son ministère de réconciliation dans un monde de plus en plus divisé par la suspicion, par l'incompréhension, et qu'elle exerce une action réparatrice dans notre société en partageant humblement la vérité théologique de l'Évangile de Jésus-Christ. Et toutes les prières qui nous habitent, nous les regroupons en celles que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Christ ressuscité nous accompagne sur le chemin, même si son royaume n'est pas de ce monde. Que la promesse de sa présence, l'assurance de sa délivrance et le souffle de son espérance soient la racine de notre démarche de foi, la vérité de nos combats au quotidien et la source de notre joie. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Et pour terminer ce temps de culte, nous chantons « Dieu est sereine, ma vie est pleine du mystère de ta paix. » Bon dimanche à vous tous.
Un instant, redécouvrez les fondements de la foi chrétienne avec Pauline de Torsiac dans le Béaba du christianisme.
Say you're sorry, yo. Don't want to say you know, be good, 'cause you're good, I'm good. trying to braid your hair. And why can't you just hold me in your arms and stay right there? Stay right there, right there. Come on and sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Come on and sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Will be fine. I am yours, you are mine, and there'll be no next time. Until the next time, tell me why can't we just focus on the good things that we share? Like you telling me jokes while I'm trying to braid your hair. And why can't you just hold me in your arms and stay right there? Stay right there, right there. Come on and sing me a love. Sing me a love, come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Come on and sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song.
Le béaba du christianisme.
Apprendre à reconnaître les saints dans l'art, de Sainte-Jeanne d'Arc à Saint-Martin de Tours, en passant par Saint-Hubert, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, comment les identifier, quels sont leurs signes particuliers, leurs attributs, eh bien on en parle cette semaine dans le béaba du christianisme.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Sophie Rouberti, bonjour.
Bonjour Pauline de Torsiac.
Alors vous êtes journaliste culturelle, vous publiez aux éditions MAM « Je reconnais les saints dans les églises et les musées ». Ce sont 30 portraits de saints pour apprendre à les reconnaître. C'est un livre destiné avant tout aux enfants, c'est assez pédagogique comme approche.
Oui, c'est un livre qui est destiné aux enfants, disons de 8 à 12 ans, mais je dois avouer que généralement les adultes qui l'ont entre les mains sont bien contents de découvrir eux aussi les attributs des saints qu'on fréquente le plus souvent dans les églises.
Alors justement, c'est intéressant parce que, comme vous le dites, c'est destiné aux enfants, mais en tant qu'adulte, on apprend aussi plein de choses. Quand on feuillette votre livre, sur la page de gauche, on trouve l'illustration, ça peut être un tableau, un vitrail, une statue représentant le saint. Puis sur la page de droite, il y a des explications, des anecdotes sur la vie du saint, sur ses attributs. Quel était le sens de votre démarche ?
L'idée était de donner des pistes aux enfants pour comprendre les personnages auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils vont dans un musée ou dans une église et qu'ils peuvent avoir du mal à reconnaître. Alors quand on a l'habitude, on sait très bien que la dame qui porte un bébé dans ses bras et qui est la plus fréquemment représentée dans nos églises, c'est la Vierge Marie, mais ça n'est pas évident pour tout le monde. Et donc l'idée qui a prévalu, c'était de donner des explications aux enfants, à la fois sur la vie du saint qui était représentée, mais aussi les attributs, faire comprendre l'idée même d'attribut, c'est-à-dire un objet, une situation, un mouvement qui permettait d'identifier ce saint. Et donc l'idée était de choisir une trentaine de saints parmi ceux que l'on croise le plus fréquemment et de donner des éléments pour les reconnaître, et puis pour les reconnaître, mais aussi pour les connaître un petit peu plus, pour savoir ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont intéressants.
Alors justement, le livre commence par la représentation de Sainte Anne sur un vitrail. On la voit qui apprend à lire à Marie. Que vous a inspiré ce vitrail qui se trouve d'ailleurs dans une église au Royaume-Uni ? Pourquoi ce choix-là peut-être, pour commencer ?
Alors vous savez, choisir c'est renoncer. Donc pour déjà choisir une liste de saints, c'est ça a été un véritable chemin, et choisir les œuvres aussi. J'ai bien aimé cette représentation en vitrail de Sainte Anne et de la Vierge, parce qu'il y avait à la fois ce travail du vitrail qui me semblait très intéressant, et puis toute la tendresse de Sainte Anne qui se penche vers Marie, et cette dimension d'éducatrice m'a semblé particulièrement intéressante.
Anne, la mère de Marie, l'éducatrice, et vous le disiez, vous avez choisi un vitrail, c'est pas non plus un choix, alors c'est renoncer, mais c'est pas un choix au hasard non plus, parce que c'est l'occasion d'expliquer l'art du vitrail, c'est ça aussi le sens de ce livre.
Oui, dans la démarche culturelle, dans la démarche d'appropriation du patrimoine que je souhaite mener avec auprès des enfants, il y a aussi cette dimension technique, c'est-à-dire que l'art, ça n'est pas juste quelque chose qui est fait par hasard. Il n'y a pas de hasard dans l'art. Il y a un travail préparatoire, il y a une technique, il y a un apprentissage, il y a quelque chose de difficile pour obtenir une œuvre qui soit digne d'être présentée dans les églises ou dans les musées.
Saint Antoine de Padoue, on va prendre un autre exemple, on feuillette ensemble ce magnifique livre. À quoi le reconnaît-on, Saint Antoine de Padoue ?
Alors Saint Antoine, le plus souvent, est représenté en compagnie de l'enfant Jésus qu'il porte dans les bras, et en fait c'est cette scène fait référence à un épisode de la vie de Saint Antoine qui l'a profondément marqué, où il se retrouve effectivement en présence de l'enfant Jésus. Et dans le tableau que j'ai choisi, qui est un tableau du peintre espagnol Murillo, l'enfant Jésus est posé sur un livre et Saint Antoine le tient avec beaucoup de tendresse. On le retrouve aussi. On retrouve aussi la fleur de lys, une branche de lys qui est aussi une des caractéristiques de Saint Antoine. Mais très généralement, quand on voit un moine habillé avec une robe de bure brune, donc des franciscains, eh bien c'est très souvent Saint Antoine. Alors, et il est très fréquemment dans nos églises.
Il est très fréquemment dans les églises. Il fait partie des saints assez populaires. C'est le saint patron des voyageurs, des mineurs, des marins et des femmes enceintes. On découvre aussi à travers ce livre finalement que on les invoque pas que pour une seule cause. Moi je savais qu'on l'invoquait pour les objets perdus, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles on invoque Saint Antoine de Padoue.
Oui, très souvent, effectivement, on l'invoque pour retrouver les objets perdus, mais on l'invoque aussi pour obtenir la protection et la sécurité, ce que je trouve intéressant, parce que finalement, il y a un côté protecteur avec l'enfant Jésus. Et cette protection, on la recherche pour soi-même, sa famille, ses biens. On l'invoque aussi pour bénir les récoltes. Il y a beaucoup de saints, d'ailleurs, qu'on invoque pour bénir les récoltes, mais c'est une des caractéristiques de Saint Antoine. Alors, on se rend compte qu'on n'a pas un saint, une invocation, on peut avoir plusieurs saints pour une même cause, et pour un même saint, plusieurs raisons pour lesquelles on le prie plus particulièrement.
RCF, le béaba du christianisme.
Apprendre à reconnaître les saints dans l'art, c'est justement la question que l'on se pose cette semaine dans le Béaba du christianisme avec Sophie Ruberti, journaliste. Vous venez de publier 30 portraits de saints pour justement apprendre à les reconnaître dans les églises, dans les musées. Votre livre « Je reconnais les saints dans les églises et musées » aux éditions MAM. On vient de parler de saint Antoine de Padoue. À quoi le reconnaît-on? Pourquoi est-ce que on l'invoque? Certains saints sont aussi plus facilement identifiables grâce à un objet qui les caractérise. On peut donner quelques exemples, Sophie Ruberti?
Alors, je pense à celui qui viendra certainement à l'esprit de vos auditeurs, qui est Saint-Pierre, avec ses clés. C'est vrai que un saint avec des clés, on pense immédiatement à Saint-Pierre, où je pense, ça n'est pas exactement un objet, mais lorsqu'on voit un saint avec sa tête entre les mains et habillé en évêque, on se doute qu'il s'agit de Saint Denis. Mais ces choses qui nous semblent évidentes ne le sont pas forcément pour les enfants. Et donc, il me semble important de mettre des mots sur ces éléments-là. Et donc, à partir du moment où ils le sauront que le saint avec les clés, c'est Saint-Pierre, eh bien, ils ne l'oublieront pas.
Saint-Martin avec son manteau, Sainte-Cécile avec son instrument de musique, ça aussi, c'est des... voilà, on a l'impression que c'est des incontournables.
Oui, c'est vrai que Saint-Martin, c'est quand même un saint très, très vénéré en France, et je le trouve particulièrement intéressant parce qu'en fait, il a été un grand évangélisateur de la Gaule, ce qui était encore la Gaule, et puis c'est aussi le signe de la charité en acte, avec ce manteau qui est partagé. Alors très souvent, on imagine qu'il a donné la moitié de son manteau parce qu'il faisait tellement froid qu'il voulait en garder quand même un petit morceau pour lui. Mais en fait, il a tout donné. Il a tout donné parce qu'en fait, il n'était propriétaire que de la moitié de son équipement, le reste appartenant à l'armée. Et donc, il a donné à ce pauvre la totalité de ce qu'il avait.
On reconnaît également, Sophie Ruberti, les évangélistes à plusieurs symboles. Expliquez-nous.
Alors, les évangélistes, il y a quelque chose qu'on appelle le tétramorphe et qui permet d'identifier les saints par rapport avec un symbole. Vous le savez, l'aigle pour Saint Jean, l'homme ou l'ange pour Saint Matthieu, le taureau pour Saint Luc et le lion pour Saint Marc. Alors, quand on voit l'un ou l'autre, souvent les quatre sont ensemble, ça constitue le tétramorphe. Et ça, en fait, c'est à la fois lié au début de l'évangile que chaque évangéliste a écrit, et puis c'est aussi lié aux quatre vivants de l'Apocalypse, dont on a eu une lecture récemment dans la liturgie. Et bien, l'Église fait en sorte que finalement on puisse comprendre très vite de quoi il s'agit lorsqu'on est face à une œuvre d'art. L'idée n'est pas l'art pour l'art, mais c'est vraiment l'art pour édifier, l'art pour donner à comprendre, l'art pour évangéliser, pour expliquer. Et parfois, on a l'impression de se trouver face à une bande dessinée dans les églises.
Exactement, et vous décodez ça avec talent. On peut parler aussi de Sainte Marguerite Marie, à part Elmenial. Le pape vient de publier une encyclique sur le Sacré-Cœur de Jésus. C'est un de ses attributs, ce cœur de Jésus.
Oui, ce cœur de Jésus, alors c'est vraiment une grâce qui nous est donnée de la mettre un petit peu en lumière, cette religieuse toute simple qui ne semble pas avoir eu à vision humaine une vie extraordinaire, mais effectivement elle est toute tournée vers le cœur de Jésus, et c'est certainement elle qui à son époque a permis que soit vraiment mise en valeur l'amour de Dieu pour les hommes. Et elle est d'ailleurs le plus souvent représentée soit devant Jésus qui présente son cœur ouvert aux hommes, soit avec un objet qui représente le cœur de Jésus.
En tout cas, Sophie Ruberti, en parcourant les pages de votre livre, on découvre les saints les plus emblématiques. Ce sont les incontournables, c'était voilà un choix de votre part?
Oui, les plus fréquents surtout. Il y a énormément de saints dont j'aurais eu envie de parler parce que soit ils me touchent particulièrement, soit ils ont une grande importance dans l'Église. Mais finalement, l'idée était quand même que lorsque les enfants ou les familles vont dans des églises, parce que les églises constituent le plus grand musée de France, et là, on a vraiment ce petit musée à proximité de chez soi où que l'on habite, j'avais vraiment envie que les enfants aillent à la rencontre de ces saints qui peuplent les églises les plus proches de chez eux. et des saints comme Marie, comme Joseph, comme Saint-Pierre, Saint-Martin, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, on peut la citer aussi, sont extrêmement fréquents dans toutes les églises, même les petites églises de campagne.
Et je vous invite justement à découvrir ce livre, c'est aux éditions MAM, Je reconnais les saints dans les églises et les musées. On apprend plein de choses pour vous, pour vos enfants. Sophie Roubertier, un immense merci.
Merci beaucoup.
Vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur rcf.fr et sur toutes les plateformes. À bientôt. Dans un instant, vous retrouverez Madeleine Vatel pour un nouveau numéro de La Bible nous parle.
Oui, nous retrouvons cette semaine notre prophète Nahum. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions entendu la violence, les catastrophes et finalement la libération. Et bien aujourd'hui, nous revenons sur ce combat contre le mal avec une arme étonnante, un désir d'amour de Dieu. C'est en tout cas l'arme des habitants du royaume de Juda, mais c'est aussi celle de notre temps.
RCF vous présente son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël.
Ouvre la porte numéro 1.
C'est une histoire qui m'a été racontée par Guy Gilbert, le prêtre des Loubards. J'espère ne pas trop le déformer. Alors écoutez, un jeune garçon avait coupé tous les liens avec ses parents après maintes disputes. Désormais seul, il menait une vie d'errance, pas toujours très convenable, il faut le dire. Les années passées, sans aucun contact avec sa famille. À la suite d'un accident qui l'avait rendu aveugle, vint l'heure des remords, des remises en question, des besoins d'affection. Mais comment ? Il demanda à un ami d'écrire à ses parents. « Dis-leur que s'ils veulent me revoir, ils accrochent un foulard au platane du jardin. Je comprendrai alors qu'ils m'ont pardonné. » Ainsi fut fait. Une fois arrivé devant la maison familiale, le jeune homme aveugle demanda « Alors, que vois-tu ? Il y a un foulard accroché à une branche ?»« Non, répondit l'ami. » Il n'y en a pas un, mais il y en a des centaines.
Pour retrouver de nouveaux témoignages de Noël fraternel, rendez-vous dès à présent sur rcf.fr, sur l'application RCF et les principales plateformes de podcast.
Chaque soir sur RCF, prenez quelques instants pour prier. La prière monastique ouvre un temps propice à la méditation. Grâce aux louanges d'une communauté religieuse, vivez un moment de quiétude et rendez grâce au Seigneur pour cette journée qui s'achève. La prière monastique, c'est tous les jours à 22h30. Tous les jours, le meilleur de la musique classique est en représentation dans Tous Mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous Mélomanes, c'est du lundi au vendredi dès 16h sur RCF.
Le week-end sur RCF, écoutez la vie du bon côté.